franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 9h11. Bonne fête à tous, c'est la Saint-Valentin. Tout de suite, Interception, le magazine de reportage présenté par Vanessa Descoureaux.
Bonjour à tous. Dans la soirée tragique du 13 novembre dernier, la France est passée sous état d'urgence. Le bilan des attentats, 130 morts, plus de 300 blessés. Ce bilan n'est pas encore établi que François Hollande vient annoncer cette mesure. C'est une première sur l'ensemble du territoire depuis la guerre d'Algérie. Dans un premier temps, l'état d'urgence est valable 12 jours. Très vite, le Parlement le prolonge pour 3 mois. Et l'exécutif a déjà fait savoir qu'il espérait une nouvelle prorogation. Le vote est attendu à la fin de ce mois. Cette mesure d'exception vise à renforcer les pouvoirs des services de sécurité. Par exemple, la police n'a pas besoin de feu vert de l'appareil judiciaire pour mener une perquisition. Le procureur est tout juste informé. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, il y a eu plus de 3000 perquisitions, près de 600 saisies d'armes, 400 assignations à résidence, pour au final 29 infractions en lien avec le terrorisme, dont une seule mise en examen. Thibault Lefebvre et Fabien Gosset sont allés dresser le portrait de cette France sous justice d'exception. État d'urgence, état de méfiance, voici leur reportage.
Interception, le magazine de la rédaction.
Bon, on y va. Je vous ferai signe la station de service.
La préfecture est persuadée qu'il y a une présence salafiste plus ou moins importante. Vous le constatez, vous, qui passez tous les jours en bus dans ce quartier ?
Ah non. Non, en fait, Alon a toujours traîne une mauvaise image, mais qui n'est plus... on n'a pas de soucis.
Elle est due à quoi, cette mauvaise image ?
Je sais pas, à une époque, certainement, des débordements, des... Non, en fait, des quartiers comme ça, ou des petites villes, qui ont une image qui reste collée. Quoi. Quand les gens ils disent, vous habitez à Lonne, ah, c'était peut-être valable il y a 10, 12 ans, 15 ans. Mais... La population sort nouvelle, donc c'est des gens qui s'intègrent. Et puis, personnellement, on n'a pas de soucis.
Ah, ça y est, on entre sur la commune d'Alonne.
Là, ouais.
Et juste en entrant sur Alonne, en fait, la première vision qu'on a, c'est un terrain de foot. Et juste derrière ce terrain de foot, des grandes barres d'immeubles. Le quartier de Chaoué, qui héberge l'espace culturel, l'espace associatif Yvon Luby. Et c'est là que se trouve la mosquée d'Alonne.
Vous allez descendre au prochain à ce moment-là, puis vous allez couper à travers. Voilà.
Merci Bernard, merci beaucoup.
Merci à vous, bonne
merci
journée.
Merci monsieur, bonne route à vous.
Au revoir.
On vous surveille.
Bonjour.
Donc non, j'allais envoyer un courrier, puis j'ai vu deux personnes, je me dis ça. J'ai vu le petit matériel, j'ai dit ça c'est pour moi.
Bah on s'est dit on va arriver.
Faire le tour un peu dans le quartier.
Puis vous appeler, ouais.
C'est pas loin. Excusez-moi, je vais juste à la poste là, j'envoie un courrier. Une amende à Paris encore. Je suis à Sanafoulène. Fonctionnaire à la ville d'Alonne au service jeunesse depuis une vingtaine d'années. Je suis aussi éducateur sportif au sein du club de la même ville, Alonne. Et je suis secrétaire de l'association des musulmans d'Alonne depuis une dizaine d'années.
Et vous avez été perquisitionné le 18 novembre dernier.
Voilà, j'ai été perquisitionné le 18 novembre à 14h30 exactement, suite à ces attentats apparemment du 13 novembre.
Allez, vous bouclez le quartier les gars. Bonjour,
donc, bonne année Bob Benhamar.
Attends, très bien.
Ça va et toi?
Un collègue de travail
voilà. Qui lui aussi est un peu dans le même cas que moi. Il connaît un peu tout le quartier puisqu'il tourne dans le quartier. On a grandi ensemble, on a joué au foot.
dans son fief.
Voilà.
Vous faisiez une blague, vous faisiez semblant de prendre un talkie-walkie.
Oui, pour vous sécuriser dans le quartier, pour dire attention, il y a la presse, il faut sécuriser le quartier.
mais c'est ça que. Aujourd'hui, maintenant, on est là, c'est ce que je vous disais. Maintenant, ils ont mis une psychose dans le quartier. Donc aujourd'hui, on fait allusion à tout ça.
Quand vous avez appris que le domicile écoutez, Monsieur Afoulen a été perquisitionné.
Je vais vous raconter. Moi, je faisais ma tournée des popotes, c'est-à-dire ma tournée des services, parce que l'après-midi, je vais chercher le courrier dans les services. Hein. Et puis là, à un moment, je tourne à droite, je vois des policiers casqués et tout ça. C'est quoi ce délire? Et puis, j'ai continué ma tournée. En même temps, je suis revenu pour voir un petit peu si c'était parti ou pas les policiers. Donc, ils sont toujours là et tout. Et puis, j'ai rencontré un copain que Hassan connaît. Et puis, sa femme était à côté de lui, tu sais. Et puis, à un moment, sa femme vient vers moi. Elle me dit, ça va, tu vas bien, Bob? Je dis, ouais, ça va. Et là, c'est là que j'ai eu des frissons. Elle me dit, est-ce que tu peux appeler Hassan Afoulen? Je dis, pourquoi tu appelles Hassan Afoulen? Elle me dit, c'est chez lui qui perquisitionne. Et là, j'ai fait quoi? Tu sais, j'ai eu un coup de froid. Je dis, t'es connerie, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment la grosse douche froide, hein, franchement.
Là, j'ai eu 70 appels. 30 messages. Voilà. Moi, c'est simple, j'étais à l'entraînement des gamins le mercredi. Ma femme m'appelle, elle me dit, ouais, il y a plein de policiers dans le quartier, plein, mais cagoulés et tout. Ouais. Je dis, oh là, putain, je peux pas le dire, mais un con qui fait une grosse connerie. Pareil comme Bob, je dis, quelqu'un qui. Et hop, je dis, écoute, vas-y, reste pas à la fenêtre, raccroche. 2 minutes après, elle me rappelle, elle me dit, non, il s'en est à la maison. Donc je dis comment ça? Elle me dit si, moi il sonne à la maison.
Là on s'approche de chez vous.
Tellement qu'ils étaient bien renseignés, les policiers qui se sont trompés de porte. Ça a fait rigoler ma femme. Donc ils étaient tous ici.
En même temps, ça peut porter à confusion parce que vous habitez une petite porte à côté du.
Et quand on vient chercher un des plus gros terroristes de Sarthe, on fait attention, on va y aller quand même, non? On va pas n'importe où. C'est un peu aberrant de ne pas savoir exactement l'endroit où j'habitais. C'est aberrant pour des gens qui sont venus à 25 pour perquisitionner qu'on se trompe de porte.
Il est 14h30, le 18 novembre dernier. La police sonne à votre porte devant laquelle on se trouve et c'est votre épouse qui ouvre à ce moment-là.
On pousse la porte. On la pousse contre le mur. Donc apparemment, elle a dû être bloquée contre le mur, là, qui est juste en face. Le policier braque son arme contre le visage de ma femme. Il lui dit ça. Il lui dit, où sont les armes? Où sont cachées? Et combien vous êtes dans l'appartement? Ils ont commencé à faire la perquisition avec des maîtres chiens, avec carrément prêts à... Ils poussaient les portes avec les pieds, apparemment, pour voir s'il y avait quelqu'un. C'était vraiment assez tendu, quoi. Mais après, moi, les policiers, ils ont fait leur boulot. Après, moi, je pense, c'est dans la manière et dans le ton qu'ils ont employé, quoi. Même si ils étaient sur les dents, parce que vu ce qui s'est passé le 13 novembre, j'ai appris après que, ils étaient sur les nerfs, ça faisait je ne sais plus combien de temps qu'ils étaient sur le terrain. Ah oui, ça doit éprouver, c'est des êtres humains quand même. Et malheureusement, malgré ça, ils ont quand même maltraité ma femme. Elle n'était pas... bien habillée, elle était en mode chez elle, donc pas de cheveux cachés, donc ils l'ont quand même sortie. Elle leur a demandé juste de lui laisser le temps de s'habiller, de mettre quelque chose de décent pour pouvoir sortir. Ils ont refusé, quoi. Voilà, c'est un peu leur façon de faire qui m'a déplu, moi. Sinon, s'ils faisaient leur boulot, il n'y a pas de souci. Hein.
Votre femme est à l'étage?
Je pense, mais j'entends la cause. Enfin, on va monter dans les escaliers pour monter au premier étage. Donc voilà, moi je suis arrivé là, dans la cuisine. Donc là j'ai trouvé ma femme ici.
C'est vos enfants qui arrivent?
Oui, c'est mes enfants, là. Ils arrivent, donc ils viennent de l'école. Ça c'est mon petit, Bilal. Mohamed Amin qui fait du foot, qui était avec moi le jour de la perquisition, qui lui il n'a pas vu. Donc, bonjour, fais un bisou.
Bonjour, ça va? Bonjour jeune homme.
Et puis donc Fadoua qui était là, qui a eu la malheur d'être là, qui a été porté par un policier. Bilal, dis bonjour.
Bonjour.
Bisous à papa. Ah, t'es à l'école? Ça va?
Bonjour madame.
Bonjour.
Bonjour.
Donc madame, elle qui a subi tout. Donc voilà, c'était dur à avaler, quoi. C'était dur à avaler dans le sens, une famille tranquille.
On va vous laisser vous débarrasser, madame, et puis si on peut vous poser quelques questions par rapport à la perquisition du 18 novembre.
On va pouvoir rentrer dans...
S'il vous plaît. Merci.
Je suis madame Afoulen.
Votre prénom?
Sharifa.
C'est impressionnant, comment ça se passe? Il y a combien de policiers?
Beaucoup. Je crois crois que 10 avec des armes et tout, devant moi. Moi, j'ai jamais vu ça, c'est la première fois.
Et il se passe quoi ensuite dans l'appartement?
Après, moi, je sors dehors, sans voile, avec un pyjama. Il m'a dit, vous êtes combien dans la maison? J'ai dit, il y a que moi et mes deux enfants. Il y a le petit qui dort dans sa chambre. Et après, ils ont rentré tous dans ma maison. Ils ont fouillé tout, les placards, tout.
Ils ont retrouvé quoi?
Pas rien. Ils ont trouvé rien, disons. Après, il y a un policier cagoulé. Il a pris mon portable. Il a noté tout, les contacts, les tout. Ouais.
On a l'impression que ce qui vous a marqué, c'est le fait d'être sorti de chez vous sans voile.
Ouais, c'est ça que j'aime pas. Pourquoi? Devant les voisins. Bah, je suis une femme musulmane, ils n'ont pas le droit normalement. J'ai dit à une, je sais pas ce que c'est, une dame, j'ai dit, tu peux me ramener une châle? Elle m'a dit, bah, c'est rien, c'est quoi ça? C'est rien ça. C'est ça que j'aime pas. Surtout devant les voisins et tout. Ils n'ont jamais vu son châle avec un shirt. C'est ça que ça fait mal au cœur. Ouais. Quand ils ont sorti, même pardon, ils n'ont pas dit.
Hassan?
Oui.
Je vais revenir vers vous. Qu'est-ce qui a changé, vous, dans votre famille? Là, vous êtes avec votre fils, votre épouse, votre fille. Qu'est-ce qui a changé depuis la perquisition du 18 novembre?
Je dirais, moi je suis quelqu'un d'intègre, de raisonnable. Il y a des jeunes qui sont venus nous voir après. Ils ont dit, est-ce que vous voulez qu'on crame des voitures? Imaginez. Alors, on leur a dit, mais non, c'est ce qu'ils veulent, c'est l'inverse qu'il faut faire. Aujourd'hui, le problème des musulmans, c'est que le musulman, il est tellement traqué qu'il ne veut même plus se défendre. Aujourd'hui, on est 27 perquisitionnés à Alonne, enfin pas à Alonne, pardon, mais dans la Sarthe. Je suis le seul à me défendre. C'est pas normal. Normalement, si on n'a rien à reprocher, si on est blanc comme neige, on doit se défendre, on doit montrer que même il y a des débordements.
Qu'est-ce qui explique, selon vous, votre présence dans les fichiers S?
Pour moi, le seul moyen qui pourrait permettre de dire que je suis dans ce fichier, c'est que je fais partie d'une association musulmane. Et après, l'autre, bah, c'est ce que j'ai sous le menton, là, ma petite barbe. Voilà, c'est le seul signe pour moi qui pourront dire que je suis dans cette fichier. Pour moi, hein, c'est le seul. Alors eux, s'ils ont trouvé d'autres preuves, qu'ils me les emmènent. Moi, c'est ce que je veux. Je veux juste savoir. Voilà, amenez-moi des preuves. Et aujourd'hui, j'ai aucun interlocuteur. Personne. On boit un petit thé?
Le 11 janvier, Hassan Afoulen reçoit une lettre de la préfecture de la Sarthe. Il découvre clairement les raisons de la perquisition. Le trésorier de l'association des musulmans d'Alonne est soupçonné de liens avec la mouvance salafiste. Corinne Orsechowski est préfète de la Sarthe depuis un an et demi. C'est elle qui est à l'origine de cette décision.
Tous les terroristes sont des salafistes. Le salafisme est un élément que nous devons, est une cible que nous devons regarder de près. Et donc, je ne dis pas que tous les salafistes sont des terroristes, mais tous les terroristes sont des salafistes. Donc, je regarde de près les salafistes qui n'expriment pas que les lois de la République passent au-dessus de leurs contraintes religieuses. Il y a une corrélation évidente.
Vous avez des relations avec vos salafistes?
J'en ai, puisque je leur fais des perquisitions administratives. C'est une forme de relation.
Est-ce que vous pensez que ces associations de musulmans, ces associations qui gèrent des mosquées salafistes, selon vos mots, ont la capacité de contrôler tous les croyants, tous les musulmans qui entrent dans leur édifice?
Tous les imams ne sont pas responsables de la façon dont les jeunes ou les moins jeunes viennent prier chez eux, mais ils sont pleinement responsables de la façon dont ils... et du courant auquel ils appartiennent, du courant religieux auquel ils appartiennent. Vous avez dans notre société des gens qui sont en recherche d'identité. Ce qui est dangereux, c'est cette adéquation entre cette recherche de repères et des gens qui professent un mode de vie, une pensée qui n'est pas la nôtre.
Il vous a invité, monsieur Afoulen, à la mosquée d'Alonne.
Je n'irai pas à la mosquée d'Alonne tant qu'elle sera gérée de cette façon-là.
Elle est gérée comment?
Elle est gérée comme une mosquée salafiste.
Quelle est la définition d'une mosquée salafiste?
Pour moi, une mosquée salafie, c'est une mosquée à l'intérieur desquelles ce qui est proféré n'est pas toujours en harmonie avec la primauté des lois de la République, la laïcité, l'égalité des femmes. Prenez juste ce sujet-là. Hein. Et je ne peux pas aller vers des gens que j'ai perquisitionnés. Si je les ai perquisitionnés, c'est que, en conscience, j'estime que ces gens sont dangereux. Je ne changerai pas d'avis. Je ne peux pas, d'un côté, allumer le feu et de l'autre côté, l'éteindre.
Ah, bonjour monsieur. On peut vous embêter deux secondes ?
Vous allez bien ? Ça va et vous ?
Bonjour.
Bonjour. Excusez-moi, juste, vous venez pour Hassan ?
Vous connaissez bien Hassan ?
Bah, en fait, moi je suis le président de l'association qui gère la mosquée d'Alon. Donc Hassan, il fait partie de l'association. Hassan, justement, je l'ai appelé, il m'a dit de venir ici, quoi.
Vous vous appelez ?
Reda Djellouli.
Vous êtes en tenue de prière ?
Oui.
C'est vendredi ?
Oui.
Donc vous avez une sorte de petit bonnet, une grosse barbe. Cette apparence, pour les autorités françaises, c'est une apparence salafiste. Elles considèrent que votre association, que la mosquée que vous gérez, est une mosquée salafiste. Est-ce le cas ?
On n'est pas une mosquée salafiste. C'est une étiquette qu'on a voulu nous mettre, qui était vraie à une certaine époque, avec un ancien bureau. Donc nous, on a été contre, entre guillemets, ce radicalisme salafisme. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait un refus de l'acceptation de l'autre. Donc je comprends que les autorités, je pense que c'est des vieux dossiers. Il faut qu'ils sachent que tout ça a changé.
Vous êtes en lien, vous, dans le cadre de l'association, avec des jeunes qui sont en voie de radicalisation dure, qui pourraient aller vers le djihadisme ?
Vers le djihadisme, non. Non. On peut être radical dans ses pensées, mais ça ne va pas jusqu'au point du djihadisme. Je vais même vous dire que même les gens que je vous parlais tout à l'heure, ils n'ont rien à voir avec le djihadisme. Ça n'a rien à voir du tout.
C'est-à-dire les personnes qui tenaient le bureau de l'association qui étaient des salafistes plutôt intolérants.
Pas tous.
En tout cas, certains qui étaient des salafistes plutôt intolérants.
On peut parler de salafisme déclaré, ouvertement et fermé, on va dire. Voilà.
C'est l'heure de la grande prière du vendredi, il est 13h et des centaines de fidèles se sont réunis pour écouter le prêche de l'imam Mohamed Silla.
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ô vous qui avez cru en Allah, faites preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Quel est votre parcours ? Vous, vous êtes né en France, Mohamed Silla.
Exactement, je suis né en France. Ensuite, je suis parti en Égypte à l'âge d'à peu près de 11 ans. J'ai poursuivi mes études coraniques dans l'Institut islamique de Al-Azhar. Et ensuite, je suis parti en Arabie Saoudite, qui est plus hanbalite, salafiste. Et j'ai fait mes études à Médine et ensuite Mekka, voilà, jusqu'à obtenir mon doctorat. Et je suis revenu en France pour traiter ces sujets qui sont des sujets très sensibles.
Vous avez postulé pour être aumônier, imam, dans l'armée française, et votre candidature a été rejetée.
J'ai pas eu de réponse à cause de mon parcours. Pour eux, l'Arabie saoudite est égale au wahhabisme, qui a la même pensée que l'État islamique et le takfiri.
Cette mosquée et l'association qui la gère, l'association des musulmans d'Alon, est clairement dans le viseur de l'État français. La raison, la proximité avec la pensée salafiste. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, en tant qu'imam de cette mosquée, de cette accusation ?
Tout dépend de ce que vous voulez dire par le mot salafisme. Si jamais le mot salafisme, pour vous, veut dire une personne qui se réfère au Coran et à la tradition prophétique, donc tous les musulmans sont salafistes. Donc cette mosquée, c'est vrai qu'elle se réfère au Coran et à la tradition prophétique, on peut dire que cette mosquée est salafiste et ouverte. Rien à voir avec le salafisme que vous dites. C'est-à-dire, c'est vrai qu'elle se réfère au Coran et la Sunna, mais ça n'a rien à voir avec le salafisme qui est le terrorisme, refuser par exemple l'autrui, combattre les autorités françaises, amener à la terreur, etc. Ça n'a rien à voir de ce salafisme. Ce n'est pas une mosquée de terroristes.
Je m'appelle Samir Amgar, je suis docteur en sociologie, diplômé de l'école des hautes études en sciences sociales et spécialiste de l'islam contemporain. Il y a trois grandes formes de salafisme. Un salafisme quiétiste qui considère qu'il est important d'axer son activité uniquement sur la dimension religieuse et on s'en désintéresse des questions politiques et on n'appelle pas à la violence. On a ensuite des salafis politiques qui vont avoir une lecture orthodoxe de l'islam et qui vont inviter les musulmans à se lancer en politique, mais à travers un registre légal. Et enfin, vous avez des salafistes révolutionnaires et djihadistes qui prônent l'action armée. Lorsqu'on fait, si vous voulez, la sociologie de la mouvance salafiste en France, on va s'apercevoir que l'ultra-majorité des personnes qui se revendiquent du salafisme ou qui sont identifiées comme salafis n'appartiennent ni à la deuxième tendance, ni à la troisième tendance. Ils appartiennent à la première tendance, c'est-à-dire au salafisme quiétiste. Autrement dit, à des individus qui défendent un islam que l'on pourrait qualifier de rigoriste, ultra-conservateur, apolitique et non-violent, parce que lorsque vous allez sur leur site internet, vous allez voir des condamnations très claires et précises des attentats menés par l'État islamique, Al-Qaïda et consorts. Les lieux de la radicalisation ne sont plus les mosquées. Et donc il me semble qu'il est très important d'avoir à l'esprit que la radicalisation s'exprime dans d'autres lieux, dans d'autres contextes, et que de considérer que les lieux de culte musulmans sont des lieux de l'extrémisme violent au nom de l'islam, c'est quelque chose qui existait dans les années 90 mais qui n'existe plus à l'heure actuelle. Ça fait près de 20 ans que l'on nous bassine avec cette grille de radicalisation en disant qu'une pratique orthodoxe de l'islam mène nécessairement à la radicalisation. C'est une grille de lecture qui considère que les wahhabites, autrement dit les salafistes quiétistes et les frères musulmans, constituent le terreau idéologique à partir duquel les individus justifient religieusement leur action et passent à la violence. Donc les frères musulmans et les wahhabites partagent le même corpus idéologique que les djihadistes. Donc l'un des moyens de lutter contre le djihadisme, c'est de faire disparaître ses fondements et d'assécher les références idéologiques de ces individus. Donc fermons les mosquées salafistes, marginalisons les frères musulmans et nous n'aurons plus de problèmes liés à la radicalisation. Non, parce que ces mêmes frères musulmans et ces mêmes wahhabites sont très critiques à l'égard des djihadistes. Donc pousser ces individus à la marginalisation, c'est les conduire ou les inciter à se diriger vers les discours d'Al-Baghdadi ou de l'État islamique. Donc à force de marginaliser des voix qui peuvent poser problème en termes de vivre ensemble, qu'on peut considérer comme totalitaires mais qui n'appellent pas forcément à la violence, on démultiplie l'effet de la radicalisation chez un certain nombre d'individus.
Nous sommes devant un des plus grands commissariats du nord de Paris, le commissariat de Cergy-Pontoise, avec plus de 700 agents. Et c'est le Val d'Oise qui, juste après le nord et l'Essonne, a été le département le plus zélé depuis l'instauration de l'état d'urgence. 121 perquisitions extrajudiciaires, 21 assignations à résidence. On peut dire que les policiers n'ont pas chômé. Et c'est Frédéric Young, qui est le secrétaire départemental d'unité SGP Police et Faux, qui nous accueille.
Quand on décide de franchir le pas d'une porte, c'est parce qu'on a en général regroupé plusieurs informations et où il est susceptible justement de trouver des éléments ou des indices laissant penser que les personnes peuvent être mises en cause dans différents délits ou crimes.
Sur plus de 3000 perquisitions, c'est donc une seule personne qui a été mise en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Vous êtes très critiqué pour l'efficacité de ces perquisitions.
Après, je veux dire, à partir du moment où vous décrétez un état d'urgence, vous savez que vous allez avoir beaucoup de perquisitions administratives à faire. Excusez-moi, mais si vous êtes un voyou, vous allez prendre toutes les précautions nécessaires pour laisser le moins d'indices possible. Donc forcément qu'on peut être très critiqué, mais en contrepartie, le travail est fait. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'on trouve du stupéfiant ou des armes, c'est toujours efficace, puisqu'il n'y a qu'un pas pour franchir le pas avec le terrorisme. Donc pour moi, c'est essentiel. Je veux dire, à partir du moment où on fait du nettoyage de masse comme ça a pu être fait dans certains endroits à retirer des armes qui pourraient se retourner contre nous, policiers par exemple, ou contre des Français. Pour moi, c'est pas du travail pour rien. Moi, je préfère être critiqué et faire mon travail correctement et trouver des armes pour empêcher des personnes mal intentionnées de nuire sur le terrain, justement.
Les attentats du 13 novembre, l'état d'urgence, la COP21, il est dans quel état, le policier du Val-d'Oise, aujourd'hui ?
Il est usé, il est fatigué, il est presque même des fois déprimé. C'est usant. C'est usant et en plus, au niveau de la sécurité des autres fonctionnaires, des fois, ça peut faire des patrouilles à 2 effectifs au lieu de 3. Sur ce département, il faut savoir que depuis pas mal de temps, on a perdu entre 300 et 400 policiers depuis 2010.
C'est une fratrie d'assignés. Cédric et Joël de Manjou sont deux militants sans étiquette et quelques semaines avant le sommet de Paris sur l'environnement, ils participent à des réunions d'opposants à la COP21. Les services de renseignement émettent ce qu'on appelle des notes blanches. Ce sont des informations sur leur profil, sur leurs activités, sans mention de l'origine du service ou du fonctionnaire qui les a rédigées. Le plus jeune, Cédric, tout juste 30 ans, nous a donné rendez-vous au domicile de son avocate lilloise, face à l'entrée du marché de Oisem.
42, c'est la sonnette du milieu.
Oui,
bonjour, c'est Thibault Lefebvre de France Inter.
Sur le deuxième étage.
Entre le 20 novembre, 15h, et le 12 décembre, à minuit, Cédric est assigné à résidence à Ivry-sur-Seine, dans la banlieue sud de Paris.
Ce qu'on nous reproche, ce serait d'éventuelles intentions. C'est-à-dire même pas des intentions qu'on pourrait lire sur des comportements constatés, mais d'éventuelles intentions qu'on aurait. Dans les faits, participation aux réunions d'organisation de la COP21, participation à l'organisation d'un camp antinucléaire, anticapitaliste en été, à l'été 2015, c'est essentiellement des faits de 2015 en plus, quoi. C'est-à-dire que c'est un travail de renseignement extrêmement limité dans le temps. Et un élément qui a été ajouté, c'était cette première manifestation de l'état d'urgence en solidarité avec les migrants qui a été interdite. Et voilà, ça c'est le seul élément factuel d'un tant soit peu de délit, c'est-à-dire d'avoir été présent sur une manifestation interdite. Et c'est le seul élément sur lequel ils mettent des photographies dans les notes blanches. C'est-à-dire que j'étais présent à cette manifestation-là, comme des centaines d'autres, quoi. Dans l'ensemble des notes blanches, il n'y a rien du tout, aucun élément concret, factuel et prouvé, rien qui laisse supposer ou qu'on pourrait être susceptible de commettre ce type d'action, quoi.
Est-ce qu'on est paranoïaque quand on est assigné à résidence ? Est-ce qu'on se sent suivi et surveillé par la police ?
On ne se sent pas suivi puisqu'on est suivi. En fait, la réalité, elle est là. On a vu les agents du renseignement en bas de chez nous. On les a vus aussi prendre des photos. Bref, du coup, on sait qu'on est suivi, c'est pas une question de ressenti, et du coup, oui, on est paranoïaque du fait qu'on sait pas où est la limite du renseignement, on sait pas où est la limite de cette surveillance, on sait pas jusqu'où ils vont. Nous, par exemple, on a constaté très très clairement, avec des preuves qu'on a pris, des photos qu'on a pris nous-mêmes, que les agents étaient cachés dans un monument historique en face de chez nous et prenaient des photos du haut du 3e étage du bâtiment. On les a vus, eux, derrière la fenêtre, en train de le faire, quoi. Et ça, je sais pas si vous imaginez un petit peu dans la tête ce que ça peut produire, se dire mais qu'est-ce que c'est que ce délire, en fait ? Ils ont pas autre chose à foutre, en fait, que de nous surveiller. On s'est dit, en plaisantant comme ça, ils trouvent pas Salah Abdeslam pendant des semaines, ils sont pas capables de rien capter, mais par contre, ils ont des moyens pour mettre 5 agents du renseignement en bas de chez nous pour nous surveiller, nous, quoi. C'est grotesque. C'est tout simplement grotesque, quoi.
Ça vous a étonné, cette décision ?
Je prends acte qu'on me considère comme quelqu'un qui doit rester à la maison parce que potentiellement dangereux. Je l'accepte pas, mais je suis obligé d'admettre que c'est ce qui est écrit dans le papier et que c'est ce qu'on me reproche. Après, je comprends aussi très vite qu'il y a des recours qui sont faisables et que ça va être le cas. Et très vite, je me suis rapproché de mon avocate pour qu'on voit comment contrer ce truc-là, quoi.
Je m'appelle Muriel Rueff, je suis avocate au barreau de Lille et j'ai été l'avocate de Cédric et Joël au moment de leur assignation à résidence. Je suis encore d'ailleurs, puisque l'histoire n'est pas finie.
Clairement, le gouvernement français a été critiqué par le Conseil de l'Europe au sujet du maintien de l'état d'urgence. Vous avez bon espoir d'avoir raison devant la Cour européenne des droits de l'homme ?
Ben, si j'avais pas d'espoir, je ferais plus ce métier. Hein. Je peux pas après imaginer quelles décisions ils vont porter, mais ça me semble important en tout cas d'aller poser la question là-bas. L'état d'urgence permet aussi, et la France l'a fait, de faire valoir l'article 15 de la Convention et de dire à la Cour, attention, pendant cet état d'urgence, on va un petit peu moins respecter les droits de l'homme que d'habitude, mais la Cour exige que ce soit vraiment dans une proportion stricte et pour limiter au strict nécessaire, etc. etc. Et je crois qu'il est urgent que la Cour s'interroge sur, au regard de ces conditions et de ces critères sur la situation française.
Pourquoi le juge administratif a débouté votre demande de suspension de l'assignation à résidence ?
C'est difficile pour un juge administratif de remettre en question ce qui est écrit dans une note blanche. C'est un fait. Alors, très récemment, le Conseil d'État est venu apporter une limitation et a enfin décidé de suspendre, je ne sais plus si c'est une suspension ou une annulation d'une assignation à résidence, mais ça reste quand même difficile de dire ce que disent les services de renseignement, c'est faux. Le juge administratif, ce n'est pas quelqu'un qui a un pouvoir d'investigation égal à celui du juge judiciaire. Il n'a même pas accès au casier judiciaire. Hein, les casiers judiciaires, les B1, sont accessibles que par l'autorité judiciaire. Par le juge administratif. Aujourd'hui, on est dans une procédure au fond, donc avec plus de temps pour préparer la défense, peut-être que ça donnera plus de fruits, mais dans les procédures d'urgence, un jugement, c'est un peu un filet à grosse maille sur lequel on porte un regard assez pas aussi précis et aussi attardé que dans un recours au fond.
Katia Wiedenfeld est juge au tribunal administratif de Paris.
Cette instruction des dossiers se fait dans beaucoup de cas, depuis la mise en place de l'état d'urgence, sur des notes blanches. Est-ce qu'on peut juger, en tant que juge administratif, à partir de documents qui sont des notes blanches ?
Ça fait très longtemps en fait que le juge administratif travaille avec ses notes blanches, puisque là on les voit un petit peu en pleine lumière avec l'état d'urgence, mais on les a fréquentées régulièrement avec les expulsions et puis plus récemment avec les interdictions de sortie du territoire. Donc ça fait partie des choses qui sont relativement connues du juge administratif. Et donc on a un mode de fonctionnement avec ces notes blanches qui est qu'on ne peut prendre en considération les éléments des notes blanches que pour autant que les éléments sont suffisamment circonstanciés. Après, vous avez raison de souligner que ces notes blanches posent un vrai problème parce que ces notes blanches doivent se concilier avec un autre élément fondamental de la procédure juridictionnelle qui est le principe du contradictoire, qui est un élément absolument essentiel auquel nous sommes tous très attachés, qui est que le juge ne juge pas à partir de dossiers secrets, le juge juge à partir de pièces qui lui ont été transmises par l'une des parties et que le juge a communiqué à l'autre partie, donc dont l'autre partie a pu prendre connaissance et l'autre partie peut les critiquer. Et donc dans ce contexte, texte-là, on comprend ou on peut comprendre que le ministère de l'Intérieur ne veuille pas communiquer certaines pièces parce qu'il a peur que la personne intéressée, finalement, en ait connaissance. C'est une difficulté à laquelle nous sommes quotidiennement confrontés que de savoir comment juger en sachant que l'information qu'on nous donne n'est qu'une information partielle, qu'on ne veut absolument pas se prononcer à partir de simples allégations que pourrait faire le ministère de l'Intérieur selon lequel il y aurait d'autres choses, puisque nous ne pouvons juger qu'au vu de pièces soumises au contradictoire. Et c'est effectivement une des difficultés. Nous essayons de trouver des remèdes. Nous, ce que nous pourrons faire, c'est continuer à développer nos moyens d'instruction pour essayer d'enrichir les modes de preuve, pour essayer de sortir de ce dilemme entre notes blanches et principes du contradictoire, et donc peut-être inventer de nouveaux outils pour y voir plus clair dans les motivations réelles qu'a eu l'administration pour assigner des personnes à résidence ou pour prendre certaines mesures de police administrative, même quand l'administration de l'Intérieur ne nous explique pas ses vraies motivations.
L'état d'urgence aussi.
Il pleut fort en ce jour de manifestation, place de la République, et l'image est tout à fait symbolique, puisque sous la statue de Marianne restent les hommages pour toutes les victimes du terrorisme, des attentats de Charlie Hebdo, de l'hypercachère en janvier. et des attentats de Paris et Saint-Denis le 13 novembre. Et quelques mètres plus loin, quelques mètres à côté de la statue, des dizaines de manifestants se sont réunis pour dénoncer l'état d'urgence. Des associations, des partis politiques, des syndicats, ils partent dans quelques minutes de la place de la République, direction la place du Palais Royal, là où se trouve le siège du Conseil d'État. Jean-Claude Amara, vous êtes président de l'association Droit Devant. Ça fait des dizaines d'années que vous militez pour la défense des droits de l'homme. Est-ce que de mémoire de militant, vous avez connu une telle unanimité des mouvements de gauche, des syndicats, des associations ?
On a maintenant près, effectivement, plus de 25 ans de lutte non-stop, hein, on va dire au quotidien. J'avoue que, en remontant vraiment dans le temps, je ne me souviens pas avoir vu un front aussi large pour affronter des mesures aussi démagogiques, stupides, porteuses surtout d'un danger profond sur la durée, quoi. Non, je ne me souviens pas. Regardez, la manifestation d'aujourd'hui regroupe plus de 100 organisations, c'est énorme. Et des organisations qui, par habitude, n'ont pas l'habitude de manifester ensemble, parce qu'elles se trouvent très souvent en confrontation. Voilà, bon, quand on voit la Ligue des droits de l'homme à côté de la Fédération anarchiste, moi j'avoue que, merci monsieur Hollande, nous on réussit pas à le faire. Bon, voilà. Non, mais je veux dire, à vouloir taper trop vite, trop fort, aveuglément, et surtout de façon profondément démagogique, évidemment, on crée obligatoirement des fronts très larges, très structurés, et qui surtout, parce que ce n'est qu'un début, vont s'inscrire profondément dans la durée. Aujourd'hui, ce qui est remarquable, c'est que dans plus de 70 villes en France, il y a une manifestation contre l'état d'urgence. Donc ça s'étend à la vitesse grand V, il y a plein de citoyens, même des citoyens qui sont pas dans des associations, syndicats ou partis, qui en ont marre d'être gouvernés uniquement sur la peur et d'avoir un gouvernement démagogique qui utilise les pires méthodes qui soient pour gouverner, pour arriver en pole position en 2017 pour les élections présidentielles.
Gouvernement de gauche à gauche, c'est ça qu'on veut.
Toujours sous une pluie battante, nous allons rencontrer Jérôme Carsenti. Il est avocat et c'est lui qui a mis sur pied avec d'autres citoyens, avocats, chercheurs, des politiques, notamment les députés qui ont voté contre la prorogation de l'état d'urgence le 20 novembre dernier. Ils ont mis sur place un conseil d'urgence citoyenne pour s'opposer à ce qu'ils considèrent être un patriot acte à la française.
Hollande, passe, levez l'état d'urgence.
Pas grand monde, hein?
Non, pas grand monde, mais finalement, je crois que c'est pas très, très étonnant. Le ressort de la peur fonctionne quand même pas mal. On a tellement été terrorisés par ce 13 novembre que le regroupement est compliqué. La crainte du regroupement existe. Et de surcroît, je pense encore une fois qu'on ne mesure pas ce que nous, on a déjà qualifié de changement de régime. Parce que l'idée à la fois de la constitutionnalisation de l'état d'urgence dans les conditions promises par le gouvernement et à la fois les lois répressives qui sont mises en œuvre dans le cadre des lois antiterroristes, que ce soit la loi renseignement ou aujourd'hui la loi récente, projet de loi encore sur la criminalité, font que tous les ressorts de la société démocratique, tous les acquis de la société démocratique en matière de droits et de liberté sont en train d'être atteints par les nouveaux dispositifs législatifs et constitutionnels. Ça, c'est compliqué à faire entendre. Donc même chez les gens les plus, j'allais dire, engagés dans la société, il va falloir qu'on resitue le citoyen, peut-être sous l'angle plus institutionnel, plus politique, et faire le lien entre la lutte contre le terrorisme telle qu'elle est engagée par le gouvernement et le pouvoir actuel et la confiscation du pouvoir citoyen, du pouvoir politique par ce même pouvoir. Et ça, je crois que quand on arrivera à faire ce lien-là, on arrivera à susciter, je pense, chez le citoyen une adhésion. Mais aujourd'hui, bah, la logique répressive, oui, on a peur. Moi, j'ai rien à me reprocher. J'ai rien à me reprocher, donc pourquoi je vais venir manifester? Moi, au contraire, je suis content qu'on s'occupe de moi. Pour l'instant, je crois que c'est ça le discours qui reste dominant, en tout cas qui reste entendu par le citoyen.
C'est frustrant pour un collectif comme le vôtre, qui est un collectif citoyen, un collectif qui dit représenter la société civile.
C'est frustrant, mais comme on est au tout début, et peut-être qu'on est naïf, mais on est plein d'espoir. Je parle pas d'espérance. Et si on arrive à bien travailler la question sociologique et citoyenne par le langage et par le mouvement, on peut arriver, je pense, à drainer du monde. C'est en tout cas un combat. Je sens que vous êtes un peu sceptique, mais j'y crois.
C'est bon, c'est bon. État d'urgence, déchéance. C'est bon, c'est bon. État d'urgence, déchéance. C'est bon. C'est non, état d'urgence et déchéance.
Une précision pour être très complet, depuis état le tournage de ce reportage, le Conseil d'État a annulé une deuxième assignation à résidence, elle courait donc depuis 3 mois, l'annonce a été faite en milieu de cette semaine. On va prolonger toutes ces questions et elles sont très nombreuses avec notre invitée, Vanessa Codacioni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, maître de conférences en sciences politiques à Paris 8. Cet état d'exception est parti pour durer quelque peu, ça c'est une évidence que de le dire. Et il a même été inscrit, c'était toujours cette semaine, dans la Constitution, on va pas revenir sur l'image déplorable de l'Assemblée nationale aux trois quarts vides lors de ce vote pourtant essentiel. Inscrire l'état d'urgence dans la loi fondamentale, dans la Constitution, qu'est-ce que ça change très concrètement ?
En réalité, ça change pas grand-chose, étant donné qu'il y a déjà la loi qui a été votée, modifié, aggravé en novembre 2015, donc on aurait très bien pu se servir de cette loi-là pour proclamer l'état d'urgence, mais ça montre une volonté d'inscrire l'exception, des dispositifs d'exception, dans le droit, dans la loi, et donc de les institutionnaliser, c'est-à-dire de les faire durer dans le temps. On remarque aussi que cette constitutionnalisation, elle a des dispositions plus liberticides, plus dangereuses hein, pour les garanties fondamentales et les libertés individuelles. Par exemple, pour l'instant, il n'y a pas de durée, alors a priori ce serait 4 mois renouvelables, ce qui est très long. Et puis en réalité, ensuite, on donne au pouvoir législatif le droit de choisir quels outils vont être utilisés par les services, les agents de la sécurité. Donc ça, c'est tout ça est à préciser dans le texte.
Ça revient à pérenniser des pouvoirs exceptionnels avec tous les risques que ça implique. Et impose.
Oui, ça pérennise des dispositifs dits exceptionnels, mais qui en réalité sont des dispositifs d'exception. Mais en réalité, ça, c'est courant sous la Ve République, c'est traditionnel et on ne fait que renforcer un processus qui existe déjà. La loi sur le renseignement de l'année dernière, par exemple, est tout à fait typique de ce type de dispositions d'exception qui sont pérennisées.
Il n'y a pas de garde-fou.
Alors, il y a des garde-fous.
Contrôle parlementaire, par exemple.
Alors, contrôle parlementaire, on voit que c'est très timide, hein, que ça voudrait, mais que ça ne vient pas. Il y a des contre-pouvoirs, malgré tout. Il y a le Conseil d'État, même si son bilan est plus que mitigé, mais en tout cas, ce serait un contre-pouvoir important. Il y a la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a le Conseil constitutionnel. Et puis, s'il y avait procès, en tout cas, il y aurait la Cour de cassation. Mais on voit que ces institutions-là, ces contre-pouvoirs-là, aujourd'hui, ne sont pas réellement des obstacles à l'état d'exception.
C'est une tradition en France, cette justice d'exception. Je ne sais pas si le terme de tradition est tout à fait approprié, mais en tout cas, il faut reconnaître qu'au regard de notre passé, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une première.
Absolument pas, c'est une vraie tradition en France de recourir à l'exception pour gérer des situations exceptionnelles. D'une part, c'est le cas de toutes les juridictions d'exception qui ont émaillé l'histoire de France, hein, depuis la Révolution française, Vichy, la Libération, la guerre d'Algérie. Donc c'est tout à fait courant, mais aujourd'hui il y a une différence, c'est que ça ne s'incarne plus dans des juridictions d'exception, ça va s'incarner dans des multiples dispositifs d'exception, policiers, militaires, administratifs, qui vont façonner une justice d'exception beaucoup plus invisibilisée et beaucoup plus étendue, qui va toucher beaucoup plus de gens.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au moment de la guerre d'Algérie, la loi de 55, le texte initial concernant l'état d'urgence, il y avait des cours spéciales, des tribunaux spéciaux pour juger. C'est ça, quand vous parlez d'incarnation, c'est ça ?
Alors, tout à fait. Alors, c'est qu'un exemple. Hein, les tribunaux d'exception pendant la guerre d'Algérie, c'est une pléthore de juridictions d'exception. Vous avez les tribunaux permanents des forces armées qui deviennent compétents en matière de criminalité politique et terroriste par la loi d'état d'urgence. Ça, c'est une première chose. Mais par exemple, le général de Gaulle, quand il va arriver au pouvoir, et à partir de 61, va multiplier les juridictions d'exception. On ne va pas les citer, mais il y en a 5-6 qui se succèdent les unes des autres pour juger plus rapidement, massivement et sévèrement des ennemis intérieurs. au départ les Algériens, indépendantistes, leur soutien en métropole, les porteurs de valises, et puis après, les membres de l'OAS.
Remarquons d'ailleurs que les membres de l'OAS, à l'époque, s'étaient enthousiasmés, étaient ravis hein, par ces tribunaux d'exception, et au final, l'histoire a prouvé que c'était eux qui étaient jugés devant ces cours. Ça, c'est pour l'histoire et le regard toujours intéressant de l'histoire qu'il faut porter. Revenons au présent, à cet état d'urgence actuel. En quoi le texte, la loi qui dessine cet état d'urgence est-elle, selon vous, plus dangereuse que la loi initiale de 55 ?
Pour trois raisons. La première, c'est qu'il faut faire déjà très attention. On nous a expliqué que ce texte de loi était beaucoup mieux parce qu'il n'y avait pas le contrôle de la presse. Mais enfin, il ne faut pas rigoler. On voit très mal aujourd'hui François Hollande essayer de contrôler la presse. Donc cette disposition-là, évidemment, elle a été supprimée. Ça ne présage en rien d'une bonne nouvelle. Trois dispositions sont beaucoup plus inquiétantes. La première, c'est la possibilité de dissoudre des organisations si le comportement de leurs membres s'avère dangereux pour l'ordre public. Ça n'a pas été utilisé, mais enfin, c'est une disposition extrêmement dangereuse qui peut toucher énormément d'organisations. Deuxième disposition plus dangereuse, la facilitation des assignations à résidence. Et puis troisième disposition, les perquisitions administratives sans le contrôle de l'autorité judiciaire, puisque le procureur est seulement informé des perquisitions. Autrement dit, on évacue petit à petit la justice, l'autorité judiciaire, du contrôle des dispositifs d'exception.
Dernière question, Vanessa Codacioni. Quel regard portez-vous sur cette semaine d'actualité qu'on a vécue ?
Je ne sais même pas quoi dire tellement c'est d'une tristesse et en même temps c'est affligeant et en même temps pas tellement étonnant au regard de l'histoire en réalité.
Est-ce qu'il y a des craintes aussi ?
Bah bien sûr. Les craintes, elles sont multiples, mais elles ne font que se renforcer. La justice antiterroriste doit inquiéter beaucoup, puisqu'on a de multiples législations antiterroristes, plus d'une vingtaine. On ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans et on ne sait pas exactement qui peut être touché, mais on voit très bien qu'il y a une généralisation de la surveillance, par exemple, que les cibles de l'antiterrorisme y sont de plus en plus floues, de plus en plus élargies. Et donc ça, c'est ma réelle inquiétude.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Vanessa Codacioni. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences politiques à Paris 8. Si vous êtes intéressé par toutes ces questions, encore une fois vraiment passionnantes, je vous renvoie vers votre ouvrage « Justice d'exception, l'État face aux crimes politiques et terroristes ». Cette émission a été réalisée par Anne Yoro, assistée de Stéphane Combe et Zora Bensmaili, mixée par Éric Boisset, état d'urgence, état de méfiance. Le reportage était signé Thibault Lefebvre et Fabien Gosset à la prise de son. Sur la page internet de l'émission, vous pourrez cette fois aussi profiter de leur reportage enrichi avec des vidéos et des infographies. Dans un instant, le journal de 10h sur France Inter. À dimanche prochain.